L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
On va parler santé aujourd'hui, santé mentale en particulier, puisque nous recevons le président de l'Ordre des médecins. Bonjour, docteur Bruno Calandreau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous a invité parce que la semaine dernière, il y a eu un nouveau drame au pont des Érudits. On va évidemment pas parler des cas particuliers par respect pour les familles, mais c'est la deuxième fois que quelqu'un se jette de ce pont. Est-ce qu'on a des statistiques sur les gestes désespérés en Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'ils augmentent ou pas? On a le sentiment qu'il y en a plus.
Non, on a très peu de chiffres là-dessus. On a une étude qui a été faite il y a 4-5 ans, c'était à l'époque le Goodfellow qui avait fait cette étude. On a peu de chiffres sur la santé mentale d'une manière générale. Le dernier chiffre, c'est ceux du baromètre santé 2022, donc ce n'est pas des chiffres tout à fait récents. Mais le problème, ce n'est pas un problème de chiffres, hein. C'est surtout un problème de la santé mentale des Calédoniens n'est pas bonne. Hein, elle n'est pas bonne en particulier parce qu'effectivement, d'abord, on n'a pas assez de soignants. Le nombre de soignants de psychiatres adultes a beaucoup diminué au CHS ces dernières années. Le nombre de pédopsychiatres, c'est une catastrophe, puisqu'effectivement, il en reste un ou deux pour tenir un service de pédopsychiatrie. Là, il y en avait 8 il y a quelques années. Donc, effectivement, on manque, et en privé, il n'y a pas beaucoup de psychiatres. Et donc, du coup, effectivement, c'est beaucoup de consultations de santé mentale qui se font chez le généraliste, hein, parce qu'effectivement, c'est le médecin de proximité vers qui les gens se tournent. Et très souvent, la consultation n'est pas destinée à être une consultation centrée sur la santé mentale, mais parce que le médecin généraliste écoute son patient, eh bien, les conséquences des émeutes, par exemple, apparaissent. Hein, et on sait que derrière tout ça, il y a beaucoup de dépressions, des dépressions qui peuvent être des dépressions réactionnelles à la perte de son emploi, la perte de sa maison, la perte de sa voiture. Hein, il y a aussi des dépressions qui sont des dépressions, beaucoup d'anxiété aussi, hein, et de l'anxiété qui est liée à ce qui s'est passé et le fait que les gens ne se sentent plus obligatoirement en sécurité dans leur quartier.
Aujourd'hui, est-ce que les médecins généralistes sont capables de prendre en charge ce type de patients et ce type de pathologie?
Alors, ils en sont capables, oui, mais le problème, c'est qu'ils sont eux aussi moins nombreux. Hein, et une consultation de santé mentale, une consultation prend beaucoup plus de temps. Et donc, malheureusement, ces médecins généralistes sont souvent débordés et donc ils n'ont pas obligatoirement le temps de passer beaucoup de temps à écouter leurs patients. Hein, donc, il faut qu'ils aillent au plus pressé. Mais c'est vrai qu'on sait que c'est une période difficile et ces suicides sont l'expression de ces problèmes de santé mentale. Il faut savoir que les études qui avaient été faites il y a quelques années, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, sur la santé mentale des Calédoniens, montraient déjà effectivement un taux d'anxiété beaucoup plus important que la moyenne internationale.
Comment on explique le manque de soignants? Ça ne vient pas uniquement des violences de mai où il y aurait pu avoir un exode des soignants, puisque on le sait, les lits fermés au CHS, ça datait d'avant cette période-là.
Oui, malheureusement, le CHS n'allait pas bien depuis plusieurs années. La psychiatrie est une spécialité qui est sinistrée en métropole. Hein, les jeunes médecins ne s'orientent pas tellement vers la psychiatrie. Et donc la Calédonie est au bout de la chaîne. Il faut trouver un psychiatre qui soit formé. Il faut trouver un psychiatre qui accepte de venir en Calédonie. Hein, dans les jeunes médecins calédoniens, il n'y a aucun psychiatre jusqu'à maintenant.
Comment redonner peut-être un peu d'attractivité à cette spécialité? Selon vous,
il faut faire la même chose que pour toutes les spécialités, c'est-à-dire effectivement aller chercher les gens là où ils sont. Hein, il faut leur donner les moyens de travailler, parce qu'après c'est un cercle vicieux. Effectivement, quand il n'y a pas beaucoup de médecins dans un service, eh bien c'est pas très attractif pour les autres médecins parce qu'ils savent que s'ils viennent, ils vont se retrouver débordés de travail. Et qu'ils n'auront pas le temps de faire leur travail correctement. Et donc très souvent, ils ont tendance à préférer des services où il y a déjà un petit peu plus de médecins.
Aujourd'hui, que demandez-vous? C'est peut-être vous adresser au gouvernement pour qu'il y ait des mesures de prise, peut-être incitatives, pour permettre d'avoir justement plus de soignants?
Je pense qu'effectivement, au CHT, il y a des actions qui sont très fortes et qui sont menées. Il y a le gouvernement se préoccupe aussi beaucoup de trouver des médecins pour les CMS de Grousse. Malheureusement, le CHS est un peu oublié parce qu'il est loin à Nouville et qu'on ne pense pas obligatoirement à lui. Et donc, il y a un travail effectivement important, celui qui a été fait au CHT pour trouver des médecins, qui doit être fait aussi autour du CHS.
Quand on parle de santé mentale, on parle aussi de la santé des jeunes. On parle souvent de cela. L'Agence sanitaire et sociale a relancé son baromètre santé et a inclus cette année des questions liées à la santé mentale, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mmh. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, peut-être déjà, d'interroger les jeunes sur ces questions-là ?
Alors, c'est important d'interroger les jeunes, mais parce qu'effectivement, ça va nous donner des idées plus précises, hein, et des chiffres plus précis que ceux qu'on a actuellement, parce qu'on manque beaucoup de chiffres, hein, dans le domaine de la santé mentale, mais il faudra que derrière ça, il y ait des actions, parce que c'est d'actions dont les jeunes ont besoin en particulier.
Et concernant les violences de mai 2024, vous avez expliqué que c'était les conséquences de ces violences qui pouvaient entraîner les gens dans une forme de dépression, avec la perte de l'emploi, etc. Est-ce que les violences en elles-mêmes ont entraîné de l'anxiété qui dure dans le temps ? On a parlé de décompensation quasiment dès le lendemain des émeutes. Est-ce qu'on est dans cette période-là ?
Oui, alors effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété parce qu'effectivement, les gens sont retrouvés dans des situations anxiogènes. Hein, quand effectivement, vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous, c'est compliqué. Quand effectivement, vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller travailler ou simplement pour vous nourrir, c'est très compliqué. Ça entraîne de l'anxiété. Hein, et il y a le fameux stress post-traumatique qu'on retrouve. Hein, des gens qui ont vécu des situations très difficiles, très traumatiques, et qui revivent ces situations régulièrement lorsqu'ils veulent dormir ou dans la journée, hein, et qui donc se trouvent dans des situations où ils sont débordés par l'anxiété, hein, et une anxiété très très forte.
Donc ça touche toutes les catégories de la population en termes d'âge, en termes de...
Ça touche toutes les catégories de la population. En général, effectivement, ça n'arrive pas immédiatement après les faits, mm-hmm. hein, parce qu'il y a un peu un état de sidération au moment des faits et autour des faits, dans les périodes qui les suivent. Et c'est très souvent quelques semaines, quelques mois après que ces symptômes peuvent apparaître.
Docteur, comment savoir qu'on souffre de ce type de pathologie ? Comment savoir si un de ses proches, peut-être, est dans une certaine difficulté ?
Ah ben, savoir si on en souffre, c'est assez facile, entre guillemets, si on peut dire, puisqu'effectivement, les symptômes vont être très importants et vont être très aliénants, hein, vont vous rendre votre vie quotidienne très difficile, hein, puisqu'effectivement, vous allez très mal dormir, vous allez avoir des moments d'anxiété très fortes, et qui sont à la limite paralysants, hein, qui vous empêcheront d'agir. Hein, et bien évidemment, c'est là où il faut consulter les médecins, et les médecins qu'on a le plus à proximité, hein, parce qu'évidemment, si on demande une consultation chez un psychiatre, ça peut être des consultations à 3 mois ou 6 mois, et c'est pas de ça dont les gens ont besoin. Ils ont besoin d'une consultation immédiate, et c'est beaucoup les généralistes qui vont pouvoir répondre à ces difficultés.
Vous les accompagnez, les médecins généralistes, sur ces questions-là au niveau du Conseil de l'Ordre ?
Oui, malheureusement, on n'a pas les moyens obligatoirement d'accompagner. Hein, il serait important, comme ça a été fait dans certaines spécialités, par exemple comme la dermatologie, hein, de former les médecins généralistes à la dermatologie de base, hein, leur permettre de savoir s'ils doivent ou pas orienter vers le dermatologue. La psychiatrie, ça fait partie de leur formation, et on ne peut pas tellement les former à trier les patients, ceux qui doivent accéder au psychiatre ou pas, hein, puisque de toute façon, le vrai problème, c'est qu'après, on n'aura pas de réponse à leur apporter, puisque les psychiatres ne seront pas disponibles, que ce soit dans le service public ou en libéral, hein, il n'y aura pas de psychiatre disponible pour pouvoir prendre en charge ces patients immédiatement. Donc malheureusement, les généralistes sont obligés de se débrouiller, hein, avec leurs patients, et là, c'est vrai que la santé mentale fait partie de la santé tout court, hein, et bien évidemment, ils se débrouillent avec les moyens du bord, hein, et très souvent, effectivement, la réponse, elle va être une réponse médicamenteuse, hein, parce que les patients sont dans un tel état de détresse qu'il faut répondre à leur souffrance, et le médicament est la première réponse qu'on peut apporter.
On a le sentiment tout de même que la prise de conscience que la santé mentale fait partie de la santé tout court, comme vous venez de le dire, est assez récente, et qu'aujourd'hui on en parle davantage qu'il y a quelques années encore.
Oui, heureusement qu'on en parle un peu davantage. Heureusement que les patients qui ont des difficultés psychiatriques sont moins stigmatisés qu'ils l'étaient auparavant. Mais pour autant, on n'a pas mis les moyens en face. Donc c'est bien de reconnaître, mais il faut absolument mettre des moyens en face. Hein, les moyens en face, ça va être aussi, ça peut passer, puisqu'il n'y a pas suffisamment de médecins, psychiatres, ça peut passer aussi par des psychologues. Hein, et il faut de plus en plus, effectivement, d'institutions s'équipent, entre guillemets, de psychologues. Les dépassent emploient des psychologues de manière à proposer des consultations psychologiques. Et c'est une réponse qui peut être apportée. Il y a aussi des évolutions autour de ce qu'on appelle les IPA, les infirmières de pratique avancée. C'est des infirmières qui ont l'habitude de travailler en psychiatrie, qui ont une formation complémentaire en psychiatrie et qui pourront répondre effectivement à la première attente des patients, et en particulier dans le service public.
Vous parliez tout à l'heure de solutions médicamenteuses. On a beaucoup évoqué les questions de rupture de soins au moment des émeutes. Est-ce qu'aujourd'hui, des gens qui auraient besoin d'être suivis ne le sont plus, faute de médecins, faute de moyens pour se déplacer, etc., ou alors simplement d'avoir une rupture avec son médecin ordinaire ?
Alors, d'une manière générale, effectivement, on s'est aperçu que les longues maladies étaient moins bien suivies qu'auparavant, alors que c'est des patients qui ont des pathologies chroniques, des patients qui ont besoin effectivement de voir leur médecin régulièrement, mais les difficultés de transport, les difficultés financières aussi font que ces patients ont tendance à ne pas accéder aux soins, et c'est une catastrophe parce qu'effectivement c'est des patients, enfin tout l'aspect préventif de leur prise en charge, devrait leur éviter d'arriver à l'hôpital, fait que s'ils ne sont pas suivis régulièrement, et s'ils ne prennent pas leur traitement régulièrement, ça peut être une hospitalisation là où on aurait pu les maintenir à domicile avec un suivi régulier. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement dans les médicaments, d'une manière générale, mais principalement dans les médicaments psychiatriques.
Comment ça s'explique ?
Ça s'explique par des raisons assez simples. En particulier pour les vieux traitements, c'est une raison très pragmatique des laboratoires qui, effectivement, c'est des médicaments qui ne leur apportent pas assez, où il y a eu des pénuries de manière européenne, et les pénuries européennes arrivent jusqu'en Calédonie.
Et ça peut effectivement avoir des conséquences dramatiques, puisque les personnes souffrant de troubles psychiatriques peuvent aussi, dans certains cas, représenter un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. C'est quelque chose, il faut être vigilant là-dessus.
Ah, bien sûr. On sait d'abord, les patients psychiatriques sont d'abord en danger pour eux-mêmes, puisqu'effectivement, ils n'ont pas obligatoirement toujours les moyens de se protéger. Et beaucoup de patients psychiatriques sont sans domicile fixe. Et donc, effectivement, il y a cet aspect-là. Et puis, les patients psychiatriques peuvent être, parce qu'ils perdent le contact avec la réalité, peuvent être dangereux pour les autres.
Tout ce qu'on a connu l'année dernière, ça peut être un élément déclencheur, ça peut être un facteur déclenchant pour des gens qui auraient déjà un terrain propice à certaines pathologies. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu se déclencher liées à tout cela et peut-être provoquer des situations compliquées puisqu'il n'y a pas de soins derrière ?
Oui, bien sûr. D'abord, pas de soins, c'est un problème. Mais aussi, des événements aussi traumatiques, ça peut aussi déclencher chez des patients psychotiques, par exemple, des délires, et ça peut effectivement les mettre en grande difficulté. Et puis, l'anxiété n'est bonne pour personne, mais en particulier pour ces patients-là, il y a un risque de décompensation face à des situations qui sont traumatisantes.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez avoir davantage de statistiques sur ces questions-là, peut-être pour aller auprès des pouvoirs publics ? Qu'est-ce que vous demandez concrètement ?
Ça serait effectivement intéressant d'avoir plus de chiffres, de savoir un petit peu, par exemple, simplement la consommation de médicaments antidépresseurs, de médicaments antipsychotiques, de médicaments contre l'anxiété, d'anxiolytiques. Ça serait intéressant de le savoir. Ça serait effectivement intéressant aussi si on pouvait savoir combien de réhospitalisations étaient nécessaires du fait du défaut de traitement.
On sait que certaines associations aussi viennent en aide à ces personnes-là. Il y a notamment SOS Écoute, il y a l'APESA pour les chefs d'entreprise. Est-ce que ça peut être une première porte d'entrée, peut-être pour en vue de se soigner ? Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez, par exemple, à quelqu'un qui se sent en difficulté ?
Ah, bien sûr, quelqu'un qui est en difficulté doit bien évidemment essayer d'aller trouver de l'aide. Et l'aide, elle peut être par les associations, avant ou en même temps qu'être par les médecins. Parce qu'effectivement, ces gens-là ont besoin qu'on les écoute. Et donc, c'est important qu'ils puissent trouver de l'aide. Mais malheureusement, ce n'est pas deux, trois associations. Les associations ne peuvent pas faire tout ce que doit faire le système de santé public. Et donc, bien évidemment, c'est des premières portes d'entrée. Ils peuvent orienter, ils peuvent aider, ils peuvent proposer des consultations avec des psychologues. C'est un premier pas.
Il me semble que lors de la fête de la science, l'événement coup de cœur sera lié à la santé mentale aussi.
Oui, parce que je crois que, mais on a tellement peu parlé que 2025 était l'année de la santé mentale. Mais malheureusement, ça a été un slogan plus qu'une réalité. Et on voit bien qu'effectivement, on ne met pas le paquet sur la santé mentale qui en a bien besoin.
Merci beaucoup, docteur Bruno Calandreau, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, bonne journée à tous.